Vous écoutez bien Radio France Internationale, il est 13h en temps universel et 14h ici à Paris.
RFI Midi.
Anne Contner.
Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain. On parlera d'abord des États-Unis et de la Colombie. Après une brusque montée de tension, tout va mieux. Éclaircissement dans quelques minutes. On parlera aussi de l'agriculture dans le département de l'Artibonite en Haïti. De très nombreux agriculteurs ont fui la violence des gangs et aujourd'hui, l'agriculture est dans un état catastrophique sur place. On parlera aussi de l'actualité des Outre-mer françaises avec vous, Tessa Groman, en Guyane, d'abord où les vols de câbles se multiplient.
Oui, à Saint-Laurent-du-Maroni, des habitants sont privés d'Internet depuis 2 semaines après que des câbles de connexion y ont été sectionnés.
À tout à l'heure. Mais d'abord, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Victor Misestralo.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et pour commencer, direction la Pologne en cette journée de commémoration.
Oui, c'était il y a 80 ans jour pour jour, le 27 janvier 1945. La découverte par l'armée soviétique du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Une cérémonie va débuter dans environ 2 heures en présence de 54 délégations internationales.
Un symbole de l'horreur de la Shoah, ce lieu de mémoire est devenu aussi le plus visité en Pologne.
Dans la petite ville d'Oświęcim, rebaptisée Auschwitz par les Allemands, quel rapport entretient la population avec cette ville? Une ville devenue malgré elle l'épicentre de la Shoah. Adrien Sarla a rencontré des habitants.
Derrière le comptoir de son café sur la place centrale d'Oświęcim, Amelia, 21 ans, prépare des infusions à la cannelle et au citron pour des touristes venus visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau. Un endroit hautement symbolique qui fait partie du décor depuis bien longtemps pour la jeune fille.
Quand j'étais jeune avec mon père, on allait souvent autour des camps en vélo pour jeter un œil. J'entends souvent dire que personne n'habite à Oświęcim, car qui pourrait bien habiter là-bas? Mais j'ai même une amie qui habite à la lisière du camp et je passais devant à chaque fois que j'allais chez elle.
De l'occupation allemande, elle ne connaît que le camp de concentration et d'extermination qu'elle a visité plus d'une fois avec l'école. Et Miroslav Ganobis, lui, a passé les 40 dernières années de sa vie à documenter la vie juive qui façonnait l'identité d'Oświęcim avant qu'elle ne devienne le théâtre de la Shoah.
Quand ma mamie m'en parlait, j'étais fasciné par cette histoire qui était pour moi un peu comme une énigme. Et pour la résoudre, j'ai rencontré de nombreux habitants d'Oświęcim. Je leur ai demandé à quoi ressemblait la ville avant. Et ils m'ont raconté, ils m'ont montré de vieilles photos. Et j'ai même fouillé les appartements d'époque à la recherche de traces de cette histoire.
Aujourd'hui, les 4000 vestiges qu'il a pu glaner au fil des ans sont exposés dans sa cave, transformés en musée miniature. Comme pour garder une trace de cette histoire difficile, dont il ne restera bientôt plus aucun témoin. Adrien Sarla, Oświęcim, RFI.
Nous ne céderons rien face à l'antisémitisme sous toutes ses formes. C'est ce qu'a promis Emmanuel Macron ce matin à Paris lors d'une cérémonie au mémorial de la Shoah. Présent cet après-midi en Pologne, le président français rencontrera son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, également présent pour ses commémorations.
Emmanuel Macron qui s'est par ailleurs entretenu hier avec son homologue libanais Joseph Aoun.
Le chef de l'État français a appelé les parties prenantes du cessez-le-feu au Liban à honorer leurs engagements dans les plus brefs délais. Hier, 22 personnes ont été tuées et 125 blessées dans le sud du pays. L'armée israélienne a ouvert le feu sur des centaines d'habitants qui tentaient, malgré l'interdiction d'Israël, de rentrer dans leur village encore occupé. Paul Khalifet, aujourd'hui, où en est la situation?
La situation reste tendue dans le sud du Liban, où des habitants s'apprêtent ce lundi à marcher sur leur village encore occupé par l'armée israélienne. Des appels à la mobilisation ont été lancés par des maires et des élus locaux pour organiser des rassemblements aux entrées de plusieurs localités, essentiellement dans les secteurs central et oriental de la frontière. Le Hezbollah a apporté son soutien au mouvement des habitants qu'il a qualifié de spontané. La foule qui a forcé dimanche les entrées des villages brandissait pourtant des drapeaux du parti chiite et des portraits de son chef Hassan Nasrallah, assassiné le 27 septembre par Israël. Ces événements ont pris de court l'armée libanaise, qui a tenté dans un premier temps d'empêcher les habitants d'avancer vers les zones encore occupées avant de se joindre à l'élan de la foule. Les soldats libanais ont accompagné cette marche du retour sous le feu de l'armée israélienne et se sont déployés dans 18 villages qu'ils n'avaient pas encore atteints. Les dirigeants libanais se retrouvent ce lundi dans une situation embarrassante. Ils sont coincés entre l'annonce par la Maison-Blanche de la prorogation du délai du retrait israélien jusqu'au 18 février et la détermination des habitants à regagner leur village. Paul Khalifet, Beyrouth, RFI.
Ils sont aussi décidés à rentrer chez eux. Des centaines de milliers de Palestiniens déplacés marchent vers le nord de Gaza. Une marée humaine emprunte un passage qui sépare l'enclave en deux. Passage qui s'est ouvert tôt ce matin après un compromis diplomatique entre Israël et le Hamas. Le mouvement islamiste qui, tout comme l'autorité palestinienne, a vivement critiqué hier les propos de Donald Trump. Le président américain avait proposé de déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie pour, selon ses mots, faire le ménage dans le territoire.
Le président Trump qui a finalement suspendu ses menaces à l'encontre de la Colombie.
Oui, cela n'aura duré quelques heures, suffisamment pour ébranler les relations diplomatiques entre Washington et Bogota. La Colombie avait refoulé des avions transportant des migrants expulsés par les États-Unis. Donald Trump a répondu par une menace d'imposer 25% de droits de douane sur les produits colombiens. La Colombie lui a rendu l'appareil. Les deux gouvernements, finalement, ont trouvé un accord dans la nuit. Justine Fontaine, ces droits de douane sont un levier de pression important parce que les États-Unis, Justine, sont un client important pour Bogota.
Oui, c'est même le premier partenaire commercial de la Colombie. Les deux pays sont liés depuis un peu plus de 10 ans par un traité de libre-échange. Et plus d'un quart des exportations colombiennes sont destinées au marché américain, principalement du pétrole brut et de l'or, mais pas seulement. Pour la Saint-Valentin qui approche, les fleurs qui seront offertes par les Américains sont bien souvent cultivées en Colombie. Et puis un café sur 4 servi aux États-Unis vient de grains cultivés dans ce pays d'Amérique du Sud. Une hausse des droits de douane aurait donc fait grimper les prix de ces produits pour les Américains et probablement fait perdre pas mal de parts de marché aux produits colombiens. Les consommateurs de ce pays d'Amérique du Sud auraient aussi eu à perdre, car les États-Unis vendent plus à la Colombie qu'ils n'achètent. On parle là principalement de pétrole, de machines ou encore d'engrais pour l'agriculture. Le président colombien Gustavo Petro, élu il y a 2 ans et demi, tente de nouer de nouvelles alliances commerciales pour moins dépendre des États-Unis. En attendant, pour éviter des pertes trop importantes pour son économie, il a été contraint de reculer face au président américain.
Explication de Justine Fontaine du service économie d'RFI. Dans l'est de la RDC, la situation à Goma reste confuse. Le gouvernement congolais a reconnu la présence dans la ville du groupe armé M23, appuyé par l'armée rwandaise. Des tirs se font entendre encore dans certains quartiers. Les autorités ont appelé les habitants à rester chez eux. On termine en France où les sénateurs planchent sur la situation du monde agricole. La profession en pleine élection de ses représentants syndicaux, une proposition de loi examinée à partir de cet après-midi suscite une levée de boucliers unanime de la part des associations de protection de l'environnement. Et Lucille Gimbert nous explique pourquoi.
Le sénateur de droite Laurent Duplomb et son collègue centriste Franck Ménonville sont tous deux d'anciens agriculteurs et d'anciens membres de l'Alliance syndicale agricole majoritaire en France, la FNSEA-JA. D'ailleurs, leur proposition de loi reprend des demandes récurrentes de cette alliance. Pour eux, il faut lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, entendez les contraintes environnementales, pour rendre plus compétitive l'agriculture française. Le texte propose ainsi de sabrer de nombreuses règles qui entourent l'usage des produits chimiques et de réintroduire des néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles. Les deux sénateurs entendent aussi assouplir les règles environnementales pour les extensions d'élevage, les projets de méga-bassines et ils veulent réduire l'influence des acteurs de l'environnement dans la gestion de l'eau. Bref, des retours en arrière considérables d'après l'opposition de gauche et d'après les ONG de défense de la nature. Et ce n'est pas le seul texte. Depuis des semaines, la Chambre haute, dominée par la droite, profite de l'instabilité politique en cours en France pour pousser des propositions qui vont contre la transition écologique. Le projet de loi d'orientation agricole porté par le gouvernement doit lui arriver au Sénat lundi prochain.
Lucille Gimbert du service environnement d'RFI. Anne Cantner, c'est à vous.
Merci Victor Missistrano. Nous sommes sur le continent américain durant les 20 prochaines minutes pour cette dernière partie d'RFI Midi.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Avec d'abord l'épilogue du bras de fer des dernières heures entre les États-Unis et la Colombie.
El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos.
Le gouvernement colombien vous informe que l'impasse avec le gouvernement américain a été surmontée. Et dans ce contexte, nous nous rendrons avec l'ambassadeur à Washington dans les prochains jours. Les mots du ministre colombien des Affaires étrangères. Il assure que les autorités continueront à suivre le cas des citoyens en situation de déportation pour leur garantir des conditions dignes. Le sort des migrants colombiens, la volonté de Donald Trump d'expulser de très nombreux immigrés entrés illégalement aux États-Unis a suscité une montée de tensions spectaculaire entre deux pays qui sont habituellement très liés. À l'origine, Carlota Morteo, il y a la décision de Bogota de refuser de rapatrier les Colombiens renvoyés des États-Unis. Et quand je dis refus, je ne parle pas seulement de déclaration. En fait, les autorités colombiennes se sont vraiment opposées à l'administration Trump.
C'est ça, tout simplement. Le président colombien a interdit l'atterrissage à deux avions militaires américains qui transportaient des Colombiens arrêtés lors des raids contre les immigrés illégaux aux États-Unis qui ont lieu ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que Gustavo Petro a estimé que ses concitoyens devaient être renvoyés, je cite, « dans le respect des droits de l'homme ». Référence au fait que la veille, le Brésil avait exigé des explications à Washington pour le traitement dégradant des 88 Brésiliens expulsés par les États-Unis arrivés à Manaus. À leur arrivée, ils avaient déclaré avoir eu les pieds et les mains liés pendant tout le trajet, ne pas avoir eu le droit d'aller aux toilettes, ni même de boire un verre d'eau. Le président colombien a donc fait savoir qu'avant de réceptionner ses ressortissants, il souhaitait préalablement négocier avec les États-Unis un protocole de renvoi pour garantir un rapatriement digne, ajoutant, je cite, « La Colombie est un État souverain et non pas une colonie ».
De quoi faire bondir Donald Trump qui a immédiatement annoncé des mesures de rétorsion.
Voilà, des restrictions de visa, mais surtout des droits de douane de 25% pour les produits colombiens, qu'il a menacé d'augmenter à 50% si la Colombie n'acceptait pas de reprendre ses ressortissants d'ici la semaine prochaine. Qu'à cela ne tienne, Gustavo Petro n'a pas reculé. Au contraire, il a riposté, disant que la Colombie aussi imposerait des taxes de 25 à 50% pour les produits importés des États-Unis.
Ce bras de fer a duré 8 heures. Une crise diplomatique couplée d'échanges nourris sur les réseaux sociaux. Et le président colombien s'est montré particulièrement direct.
Oui, Gustavo Petro n'a vraiment pas hésité à dire le fond de sa pensée. En voici quelques morceaux choisis. « Monsieur Trump, je n'aime pas beaucoup voyager aux États-Unis. C'est un peu ennuyeux. Je n'aime pas le pétrole. Il va anéantir l'espèce humaine. Peut-être qu'un jour, autour d'un shot de whisky, nous pourrons en parler franchement. Mais c'est difficile car vous me considérez comme une race inférieure. » Et le président socialiste colombien, qui je le rappelle est un ancien guerrillero, se classé très à gauche sur le spectre politique, a interpellé frontalement le président américain. « Vous pouvez, avec votre puissance économique et votre arrogance, essayer de faire un coup d'État comme vous l'avez fait au Chili du temps de Allende. Moi, je suis têtu, j'ai résisté à la torture et je vous résiste. » Fin de citation.
Mais Carlota, en fin de compte, la guerre commerciale a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Hier, en fin de soirée, les deux pays ont déclaré que l'incident était clos. La Colombie a cédé, elle va accepter les migrants qui sont expulsés. Et la Maison-Blanche, de son côté, salue cet accord comme une victoire pour la ligne dure de Donald Trump.
Oui, puisque la Colombie est dans une position de faiblesse. Les États-Unis sont le premier partenaire commercial du pays, son principal allié militaire. Pour les Colombiens, ça aurait été catastrophique. Donc l'escalade verbale de Gustavo Petro est une posture politique, idéologique. Il a sans doute voulu se positionner comme le défenseur de la dignité latino-américaine quelques jours avant une réunion d'urgence de la CELAC, la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, mais ça n'a eu aucun effet sur la réalité, puisque en coulisses, grâce à un langage diplomatique bien plus mesuré, une sortie de crise a été très vite trouvée et on s'est finalement retrouvé au point de départ.
En revanche, il y a quand même une indication dans cette crise, c'est que ça donne un peu le ton de ce que peuvent être les relations à venir entre les États-Unis et la région.
Voilà, cette menace immédiate de taxes douanières, ce message d'intransigeance, Donald Trump le brandit effectivement et n'a aucun scrupule à humilier ses partenaires, ses alliés. Ça pourrait pousser certains pays d'Amérique latine à accélérer leur rapprochement avec la Chine, l'Inde, voire la Russie pour s'émanciper du géant américain.
Carlota Morteo, et cette crise aussi intense qu'éphémère, elle fait la une de toute la presse en Colombie. Vous l'avez lu pour nous, Anne Verdaguer, et les mots choisis par les journaux donnent vraiment une idée de l'importance de l'événement.
Oui, une crise monumentale entre les États-Unis et la Colombie, titre le journal El Tiempo, qui détaille presque heure par heure la montée des tensions du premier tweet du président Petro, qui s'est insurgé contre le fait que les migrants colombiens étaient traités comme des criminels, jusqu'au moment où il propose l'avion présidentiel pour aller les chercher. En seulement quelques heures, la relation binationale entre la Colombie et les États-Unis a été chamboulée, explique l'éditorialiste d'El Espectador, mettant en danger la stabilité commerciale du pays et accessoirement les visas de millions de Colombiens. Et il n'a fallu qu'une semaine après l'investiture de Donald Trump pour en arriver là, précise le quotidien colombien, qui rappelle que le président Gustavo Petro a déjà été impliqué dans de violentes passes d'armes avec Donald Trump par le passé en raison de la différence idéologique entre les deux hommes. La presse colombienne, qui est très partagée sur la réaction du président Gustavo Petro, pour Semana, cette situation sans précédent dans l'histoire des relations entre les deux pays aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour la Colombie. Le journal reprend notamment les messages tweetés par le président colombien à son homologue américain, dans lesquels il use d'un ton agressif qui aurait pu conduire à un point de non-retour, selon le journal, qui rappelle que le président Petro est déjà très impopulaire et que sa réaction aurait pu conduire le pays dans une situation désastreuse.
Et c'est l'occasion pour le journal brésilien O Globo de revenir sur la vision qu'a Donald Trump de toute l'Amérique latine.
Oui, les expulsions de migrants ont ouvert la première crise entre Trump et l'Amérique latine, titre O Globo. Mais dans les premiers discours du président américain, explique le journal brésilien, le ton était déjà donné. Donald Trump estime en effet que les États-Unis n'ont pas besoin de l'Amérique latine, mais que les pays d'Amérique latine ont besoin des États-Unis. Fidèle à son style direct et souvent grossier, poursuit le journal, le président américain revient au principe de la doctrine Monroe que certains analystes ont déjà rebaptisé la doctrine Donroe, un concept du 19e siècle utilisé pour justifier la nécessité d'une expansion territoriale des États-Unis. Mais, écrit O Globo, Trump ne peut pas tourner le dos à l'Amérique latine pour des raisons commerciales et surtout en raison de la guerre d'influence menée avec la Chine. En attendant, les pays d'Amérique latine se préparent déjà depuis quelques temps à l'offensive anti-immigration de Donald Trump et ils savent à quoi s'attendre, conclut le journal.
Cette offensive, les décisions anti-immigration du président américain inquiètent aussi beaucoup. En Haïti, où le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, parle d'une catastrophe pour le pays.
Ses propos sont repris dans le Nouvelliste aujourd'hui. Leslie Voltaire a déclaré lors de sa récente visite à Rome, où il a rencontré le pape François, que les décisions de l'administration Trump de geler les programmes d'aide, d'expulser les migrants et de bloquer les réfugiés auront des conséquences désastreuses pour Haïti, qui lutte déjà contre la faim, doit déjà gérer les personnes déplacées à l'intérieur du pays et ne peut pas faire face à cet afflux. Dans un rapport publié ce mois-ci, l'Agence des Nations Unies pour les migrations estime que les déplacements internes en Haïti ont triplé au cours de l'année écoulée et dépassent désormais le million de personnes. La situation est due en grande partie à la violence des gangs, rappelle le Nouvelliste. Trump a dit qu'Haïti était un trou à rats, dit de son côté Leslie Voltaire, donc je ne pense pas qu'il se soucie d'Haïti. Le président du Conseil présidentiel de transition a discuté avec le souverain pontife de la situation en Haïti, où la moitié des 11,4 millions d'habitants souffrent déjà de la faim et la perte de l'aide humanitaire ne fera qu'aggraver la situation, conclut-il dans son interview.
Le Nouvelliste qui parle également, Anne, de la création d'une cellule pour venir en aide aux Haïtiens des États-Unis.
Selon une circulaire datant du 24 janvier, le ministère haïtien des Affaires étrangères a instruit l'ambassade et les postes consulaires aux États-Unis qu'il devait s'empresser de créer dans les meilleurs délais une cellule de veille et d'urgence en vue, je cite, d'assister et d'accompagner les Haïtiens qui seraient potentiellement visés par les décisions du gouvernement américain sur l'arrestation et la déportation de migrants en situation irrégulière, rapporte le journal. Chaque cellule aura pour mission de collecter les informations pour mieux guider, orienter et informer les ressortissants haïtiens sur leurs droits en cas d'arrestation, d'incarcération, de détention préventive ou toute autre forme de mesure restrictive.
Anne Verdaguer pour la revue de presse.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On reste en Haïti où la situation sécuritaire pèse beaucoup sur les agriculteurs. Les vols, les viols, les enlèvements, les massacres sont très fréquents à Liancourt, par exemple, ville autour de laquelle gravite le gang le plus violent du département de l'Artibonite. Ce groupe exerce un contrôle quasi total sur la région où la plupart des champs sont à l'abandon depuis 2 ans maintenant. Ceux qui les exploitaient ont fui pour échapper aux bandits et aux criminels. C'est notre dossier du jour. Il est signé Ronel Paul.
Depuis quelques mois, grâce à une présence policière renforcée à Liancourt, certains agriculteurs ont pu retourner sur leurs terres. À l'image de Franz Calixte, responsable de plusieurs organisations d'agriculteurs. Mais après avoir visité ses champs, il est dépité.
Tout est parti à volo. Les rizières sont en friche, on ne voit plus rien tellement les terres sont abîmées. Pour replanter les champs, ça va nous prendre beaucoup de temps. Il faut d'abord déboiser, ensuite curer les canaux. Le pire, c'est que nous n'avons plus rien pour travailler la terre. Le gang a pris tout ce que nous possédions. On est complètement ruinés.
Quand il énumère ses pertes, Franz Calixte retient difficilement ses larmes.
J'avais 6 vaches avec des veaux, 5 taureaux que je ne voulais pas encore vendre, mes porcs, ma maison. Je n'ai rien retrouvé. À vrai dire, c'est à contre-cœur que je suis parti. Un ami m'avait hébergé chez lui pour que je puisse récupérer un peu, mais j'ai senti que je ne pouvais plus rester. Je pleurais beaucoup, alors je suis retourné à Liancourt en septembre dernier. C'est moi et quelques jeunes hommes qui avons aidé la police à nous frayer un chemin pour revenir dans la zone, parce que je ne voulais pas mourir loin de chez moi.
Retourner dans sa localité, mais à quelle fin, puisque le gang sème encore la terreur au milieu de cette population qui n'a plus rien. Jusqu'à présent, Andrenson Célestin ne sait pas quand il pourra reprendre normalement ses activités agricoles, car la majorité de ses champs se trouvent à proximité des zones contrôlées par les gangs. Pour sa sécurité, il n'ose plus y remettre les pieds. Alors, pour assurer la survie de sa famille, il se contente de travailler les rizières de quelqu'un d'autre avec qui il devra partager les récoltes.
C'est 100 fois ni le loyer.
Parce que les gangs sont sans pitié, ils tirent comme bon leur semble. Ils tuent quand ils veulent. Par exemple, un proche du beau-frère de ma femme s'était fait kidnapper. Les gangs lui ont brûlé le dos et lui ont mis le feu aux pieds. Puis, ils lui ont fait payer une rançon pour être libéré. Où a-t-il été kidnappé ? Dans son champ. Lorsque toi, tu as tes champs à proximité de ces malfrats et que tu es au courant de ces choses horribles, tu n'as d'autre choix que d'abandonner tes terres.
Conséquence, plus de 70% des terres agricoles de la région ne sont pas cultivées, constate Kedder Présendieu, membre du collectif pour sauver l'Artibonite, une organisation de défense des droits humains. Face à la situation humanitaire catastrophique à Liancourt, outre la lutte contre les gangs, le jeune avocat insiste sur la nécessité pour les autorités de verser des aides aux agriculteurs.
Pour qu'ils trouvent des intrants agricoles, des tracteurs et tant d'autres matériels leur permettant de labourer la terre. Ils doivent aussi avoir accès aux semences et aux engrais pour qu'au moins, lors de la prochaine campagne agricole en été, ils puissent reprendre leur activité comme avant.
Et il n'y a pas que les agriculteurs qui pâtissent de la violence des gangs dans l'Artibonite. C'est la population dans son ensemble, qui subit les conséquences du détournement régulier des camions de marchandises, du contrôle et du détournement de l'eau du barrage qui alimente les terres de la principale région rizicole d'Haïti. Les opérations de la police nationale contre les bandits se sont jusque-là soldées par un échec. Fin décembre, un blindé de la mission multinationale d'appui à la sécurité a été incendié par ces caïds qui menacent aujourd'hui de détruire complètement le barrage. Ronel Paul, RFI.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Nous en parlions tout à l'heure, ce 27 janvier est une journée de mémoire. 80 ans après la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz en Pologne par des soldats russes qui ne s'attendaient pas du tout à cette découverte sordide. La date a été choisie pour devenir la journée internationale de l'Holocauste et dans un contexte de montée des extrêmes en Europe comme aux États-Unis, un certain nombre d'Américains s'inquiètent aujourd'hui d'un manque de travail de mémoire. Ils l'ont dit à notre correspondant à Atlanta, Edward May.
Jamie promène son chien devant des boutiques et des restaurants. La trentenaire, qui est juive, estime que l'Holocauste n'est plus autant enseigné qu'avant.
Si vous ne parlez pas de l'histoire et du passé, l'histoire est vouée à se répéter. Et d'une certaine manière, c'est ce qui est en train de se passer. En tant que juive américaine, je ne suis pas à l'aise à l'idée de montrer des symboles qui représentent le peuple juif. Par exemple, j'ai arrêté de porter un collier avec une étoile juive à cause de tout ce qu'il se passe.
À ses côtés, son copain Joe constate aussi une montée du négationnisme.
Beaucoup de nationalistes blancs continuent de penser que cela ne s'est jamais produit ou le remettent en question. Et je ne pense pas qu'assez de choses ont été faites récemment pour lutter contre cela.
Grant, 53 ans, ne pense pas que l'histoire se répète, mais il dit voir autour de lui de plus en plus d'éléments qui ont permis la montée du nazisme.
Il y a plus de remarques tolérées à propos de personnes différentes, d'une autre religion ou sur les immigrés qui sont dénigrés.
Selon une étude publiée cette année du Claims Conference, une organisation internationale pour l'indemnisation des victimes de la Shoah, presque la moitié des Américains interrogés ne connaissaient pas le nom d'au moins un camp de concentration. Edouard May, Atlanta, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Tessa Groman, on va d'abord en Guyane pour parler d'un véritable phénomène, c'est le vol des câbles.
Oui, à Saint-Laurent-du-Maroni, dans l'ouest du département, deux quartiers sont privés d'Internet depuis deux semaines. Des câbles ont été sectionnés et emportés par des voleurs. 200 clients sont concernés. Les précisions d'Océane Dacunia, Guyane, la première.
À l'entrée du village de Terre-Rouge, le câble qui relie tout le quartier à Internet gît dans la boue, à quelques mètres de la route. Ici, 300 mètres de câbles suspendus ont été dérobés dans la nuit du 17 au 18 janvier. Au même moment, deux autres vols le long de la route de Saint-Jean ont été signalés par l'opérateur Orange, privant au total près de 130 abonnés de connexion Internet et de téléphone fixe. Depuis, la panne persiste. L'opérateur aurait fourni des cartes SIM à ses clients, le temps de rétablir leur connexion Internet. Mais sur place, les abonnés s'impatientent et attendent de pied ferme les équipes de réparation.
Et l'opérateur affirme que ses équipes sont mobilisées pour évaluer les dégâts et acheminer le matériel nécessaire pour rétablir les lignes dans les plus brefs délais. Un avion de tourisme s'est abîmé hier au large de la Dominique. Il avait décollé depuis l'aéroport du Lamantin en Martinique où il devait rentrer dans l'après-midi. La tour de contrôle a perdu le contact de l'appareil peu avant 16h. 4 personnes, des jeunes, se trouvaient à son bord. Les recherches s'intensifient pour tenter de retrouver les passagers et l'avion. Les Martiniquais d'origine indienne ont désormais accès à la plateforme OCI pour citoyens indiens d'outre-mer. Elle permet d'obtenir une carte qui autorise à des voyages en Inde sans visa. C'est le comité du tourisme martiniquais qui l'a mise en place. Une démarche diversement accueillie par les descendants d'Indiens venus travailler en Martinique après l'abolition de l'esclavage. On écoute Lucienne Vélary-Rapin, puis le président de l'association culturelle Martinique-Inde, Patrice Demoison.
Peut-être c'est une bonne chose, mais il y a beaucoup de démarches à faire. Je demande quand même pas mal de pièces et même aussi de le présenter à la cour d'appel. Rester en aide, il y en a qui ont essayé, hein. Mais après, ils reviennent. Hein. Par contre, mes deux petits frères, eux, comme c'est la première génération avec leur mère, eux, ils peuvent faire la carte, c'est plus facile. Mais moi... Non, je préfère encore payer mon visa et puis y aller, de m'embêter avec faire des paperasses.
S'il s'agit de retourner en Inde pour revendiquer mon appartenance en tant qu'Indien, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes des Caribéens, nous sommes des Antillais. Par contre, s'il s'agit de dire que mes ancêtres viennent d'un grand pays, c'est extrêmement important. Retrouver les repères de la langue, repères du religieux, des traits culturels importants, mais toujours mettre au goût du Martiniquais parce que nous ne sommes plus des Indiens, nous sommes des Métis.
Voilà des propos recueillis par Bertrand Caruge, Martinique la première. Et puis, elle avait été la première femme ultramarine à représenter la France aux JO. Marlène Canguio est morte hier à l'âge de 83 ans. L'athlète guadeloupéenne avait participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 sur le 100 mètres haies avant de se reconvertir dans l'agriculture. Voilà, bonne journée.
Merci Tessa Groman. On va écouter un peu de musique avant de se quitter. Voici la légende Femi Cuti qui présente un nouveau titre. C'est le premier depuis 6 ans et il est à découvrir en ce moment dans la playlist RFI. Femi Cuti et ce nouveau titre à découvrir en ce moment dans la playlist RFI. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été avec nous. Cette édition était réalisée par Vincent Biteau. Passez une très bonne journée à notre écoute. Dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour son émission de Vive Voix.